Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur notre site internet www.rdwa.fr. Et aujourd'hui, au studio, pour commencer l'année, nous accueillons les violons d'Aliénor, qui est composé d'un trio de jeunes musiciennes, à commencer par Camilla Bichard, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Laurie Bourgeois.
Bonjour.
Et Oda Ropion.
Bonjour.
Et accompagné donc de Nicolas Mizen, qui représente Alter Musica, qui organise donc ses concerts dans le Diwa, principalement.
Tout à fait, merci pour l'invitation, c'est moi-même.
Vous êtes ici pour nous présenter donc un concert, deux concerts même, qui auront lieu le vendredi 3 janvier à la salle Arc-en-Ciel à Die, à 20h30, et ensuite à Poyol, au Temple, samedi 4 janvier à 20h30 aussi. Donc vous proposez une succession de morceaux de musique baroque et préclassique. D'abord, en premier lieu, les violons d'Aliénor viennent d'où ?
Alors, bah on est originaire de Poitiers. En fait, on a toutes les trois fait nos études à Poitiers. Et on s'est rencontrés au sein du Pôle Aliénor, une institution d'enseignement supérieur de musique. Et voilà, par le biais de cette institution, de cette école, on a composé les violons d'Aliénor.
Vous vous êtes rencontrés donc à Poitiers, il y a quoi, quel établissement là-bas
Le Pôle Aliénor en fait, qui est donc un centre d'enseignement de supérieur de musique et de danse. Et on s'est rencontrés en 2017, on a commencé à jouer en 2017, elle acquiesce, elle opine du chef. Mais on a fait notre premier concert au Portugal en 2018.
Et d'emblée, vous êtes un trio ou vous êtes plus de musiciennes pour d'autres compositions, par exemple ?
Alors, pour le premier concert, on était en quatuor avec une demoiselle qui s'appelle Iris Parizeau à l'alto. Et puis, pour la musique, elle est partie travailler à l'étranger. Et en fait, ça dépend, elle a une carrière d'intermittente, elle travaille avec Ars Nova. Et donc, quand elle est là, on profite d'elle. Et quand elle travaille avec eux, du coup, on est toutes les trois. Donc, on a deux formations sous le nom Les Violons d'Aliénor.
Pourquoi ce nom, Aliénor, ça nous ramène à l'époque du Moyen-Âge ?
Un petit peu. Et puis, c'est une figure aussi de Poitiers, de toute la région. Et puis, c'était un peu aussi une grande femme qui a fait beaucoup de choses. Donc, ça nous inspirait bien.
C'est la même personne, Aliénor d'Aquitaine.
Oui.
Vous proposez de la musique baroque et préclassique. Ce sont principalement ces styles musicaux qui vous lient, ou alors vous essayez à d'autres styles également ?
C'est-à-dire qu'au Pôle Aliénor, là, dans notre école, on est toutes les trois en musique ancienne. Donc de ce fait, oui, c'est plutôt cette période baroque. Initialement qui nous a liés. Après, on s'est par nous-mêmes aventurés vers le pré-classique et de plus en plus.
Et puis la Renaissance aussi, quand même pas mal.
Oui, Renaissance un peu.
Toutes les trois, vous vous êtes lancées dans la musique très jeune, avant de vous perfectionner dans cette école.
On a des cursus un peu, toutes les trois, très différents. C'est assez récemment qu'on s'est consacré à la musique ancienne, donc sur instruments différents de ce qu'on avait l'habitude de faire depuis très jeune. Et voilà.
Oui, en fait, on a...
Nicolas. Je t'en prie.
On est venu du moderne, toutes les trois. Et on a plus ou moins continué... dans les études, avec des licences d'interprète et tout ça. Et on s'est vraiment rencontrés quand on a basculé, effectivement, basculé. C'est un grand mot, parce que là, on y retourne avec le pré-classique et même le classique tout court, parce qu'on a été en Autriche il y a peu de temps pour un festival sur le thème d'Haydn. Et donc voilà, on a ces chouettes expériences de pouvoir aller de la Renaissance jusqu'à presque des musiques aujourd'hui, avec de la musique répétitive qu'on aime beaucoup aussi. Et quelque chose qui nous lie, c'est aussi l'improvisation sur des basses obstinées que vous verrez d'ailleurs, que vous entendrez au concert.
Alors je reviens sur la question du cursus qui a été évoqué. Là, en fait, le pôle Aliénor, où moi-même j'ai été étudiant, où j'ai rencontré le trio, c'est une école qui est post-conservatoire. On va jusqu'à la fin du conservatoire dans nos régions natales. Et ensuite, il faut rejoindre un établissement d'enseignement supérieur, qui peut être un conservatoire national comme à Paris ou à Lyon, ou un pôle d'enseignement supérieur comme ailleurs en province, notamment à Poitiers, ou d'autres villes comme Dijon, Rennes, Lille, etc. Et donc c'est donc un cursus universitaire que propose cette école dédiée à la musique, avec des licences de musiciens et des masters de musiciens, et même des, pourquoi pas, des doctorats de musiciens. Voilà les circonstances de travail.
Donc au mieux, au pire, vous seriez enseignante de musique dans l'éducation nationale. Hein.
Au mieux, enfin, ça peut être
non,
au mieux. Quoi.
J'ai dit au pire, hein,
après. Voilà. Oui, on se forme aux deux. ODE pourrait donner des cours. D'ailleurs, c'est très complet, parce qu'on ne donne pas que des cours d'instruments dans des écoles de musique et dans des conservatoires. On peut aussi faire des projets des projets sociaux, comme Demos, par exemple, qui est un projet de la Philharmonie de Paris, où on est avec des enfants que l'on va chercher et avec qui on monte un projet très collectif autour de composition et pour lesquels on suit 3 ans, par exemple. On a donc cette formation-là de DE, diplôme d'État pour devenir professeur, et on a ces licences d'interprète dont parlait Nicolas tout à l'heure.
Ces instruments avec lesquels vous pratiquez la musique, vous connaissez leur histoire à chacun?
On l'imagine.
Il n'y a pas de livret de famille de nos instruments, malheureusement. Ce ne sont pas des Stradivarius, on a seulement des instruments dans nos moyens. Et non, on n'a pas de livret de famille, on ne sait pas forcément, à part peut-être le dernier musicien qui a joué dessus, on n'a pas tout leur historique depuis... le mien, il est 1850, par exemple. Camélia, elle a un vrai instrument, elle a une copie d'instrument d'époque. Moi, le mien, il est un peu tardif, du coup, pour la musique qu'on fait. Et ton violoncelle, Oda
Il est pas du tout signé, il est très, très mystérieux, mais il semblerait qu'il soit très ancien. Enfin, il y a des pièces qui sont très anciennes sur l'instrument et qui dateraient du XVIIe siècle.
Et d'ailleurs, ils sont fabriqués avec le La 432, dans la notion du La 432, ou ils sont aussi aptes pour le La 440?
On bouge tout le temps, en fait. Ça dépend, parce qu'à l'époque, on s'accordait selon l'église de la ville. Donc, par exemple, en Italie, des fois, on s'accordait à 460. Et puis en France, souvent, c'était 392. Donc là, aujourd'hui, on joue à 415. Donc c'est un peu le La qui a été... banalisé pour la musique ancienne, on joue souvent à 415, mais en fait, c'est pas vraiment historiquement informé selon ce qu'on joue, ça dépend.
Et vous ressentez cette différence au niveau de la rythmique par rapport à ces fluctuations de fréquence?
Les instruments réagissent pas forcément pareil, ils sont des fois, plus on les monte, plus ils sont brillants, un peu tendus, plus bruyants, plus puissants, mais brillants, pardon, pas bruyants, bon, c'est pas très valorisant pour eux, mais on le sent un peu comme ça. Et aussi, pour parler du concert, on va jouer une Baby Bird que vous allez écouter au milieu de l'émission. On joue en scordatour. En fait, c'est pas qu'on s'amuse, mais disons que le compositeur change l'accord de nos instruments. Alors, ce sera surtout là les violons. On peut baisser ou monter certaines cordes pour avoir des accords spécifiques. Et donc, ça donne plein de sonorités différentes. Soit, pareil, l'instrument est très tendu. Des fois, il est beaucoup plus résonnant. Et donc, ça permet aussi de faire plein de choses dans des tons spécifiques. À l'époque, ils aimaient bien avoir un affect, une humeur, une émotion par tonalité. Et donc là, ils s'amusent avec ça.
Bah, y a aussi le fait qu'on joue sur des cordes en boyau. Ça change vraiment beaucoup le son. Et donc, c'est... ce qui fait que nos instruments sont très sensibles au changement de température et qu'on doit beaucoup s'accorder. Mais la recherche du son dans les cordes en boyau est hyper différente que pour les instruments modernes, en fait.
Il y a plus de richesse sonore avec le boyau?
On trouve, oui, mais
c'est une question de point de vue, je crois.
Ça dépend du répertoire, évidemment. On ne joue pas sur des cordes en boyau pour de la musique contemporaine ou de la musique, je ne sais pas, moderne.
Ça se peut. Il y a des pièces contemporaines aussi pour boyau.
Qui sont écrites pour
qui
ça.
Sont, ouais, ouais.
D'accord. Donc le son est bien différent en fonction du compositeur et ce qu'il recherche.
En sachant qu'on joue sur boyau jusqu'au début du XXe siècle,
Et même pour les cordes très fines, très aiguës, ça va jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc ça fait finalement peu de temps, vu l'histoire de la musique, qu'on joue sur cordes en métal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'orchestres que l'on entend aujourd'hui, comme les siècles, qui jouent de la musique du XXe, par exemple, mais sur instruments, enfin sur boyaux, sur des cordes en boyau de bœuf ou de mouton.
Voilà. Vos archets, particulièrement pour les violons, je les trouve étranges et différents de ce que je vois habituellement. C'est quelle origine, cela ?
Alors, nos archets sont plus courts que des archets modernes. Donc la courbure de l'archet est aussi
inversée.
Voilà. Donc, c'est plus comme un arc, alors qu'après, c'est dans l'autre sens. Et la pointe aussi est pointue. Voilà. Il y a moins de crins. Et après, donc, on a des... Il faut savoir que l'évolution de l'archeterie change énormément entre le début 17e et jusqu'au 19e. Il y a vraiment, selon des dizaines d'années, des différences énormes. Et donc, on a toutes les trois un peu des archets d'époques un peu différentes. Et plus il est ancien, plus il est court. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Bah, c'est surtout en lien, en fait, avec... avec l'attaque sur le boyau, en fait, sur la corde en boyau. Les archets sont... les archets modernes, donc, qu'on a en conservatoire de nos jours, c'est des archets qui sont plus lourds et qui ont plus de... Enfin, qui... Comment dire parce que la corde en nylon qu'on a aujourd'hui, elle est plus difficile d'attaque que les cordes en boyau qui sont au contraire très très sensibles et où il faut plus de légèreté et moins de lourdeur. Donc c'est pour ça que les archets sont plus allégés et où la courbure est inversée pour que le poids soit inversé aussi.
Nous allons passer au premier morceau qui a introduit l'émission, donc une composition de Vitali.
Vitali, c'est un compositeur de la fin du XVIIe siècle, un Italien. Et en fait, nous, ce qu'on aime beaucoup dans ce répertoire, c'est que ce sont des musiques de danse, de standards, comme les standards de jazz aujourd'hui, sur lesquels on peut, enfin, chaque compositeur s'amuser à être le plus inventif, à émerveiller le plus possible les auditeurs. Et donc, nous, on s'inspire de ce qu'ils écrivent, on en lit plein de passacailles différentes. Et après, là, par exemple, ce qu'on a fait, c'était de jouer la passacaille de Vitali et ensuite finir par une improvisation qui était donc nôtre. Et pendant le concert, vous verrez, il y a plusieurs passacailles de différents styles. On va avoir une allemande et une française. Donc là, à chaque fois, nous, on essaie de travailler les improvisations dans le style et de vous offrir notre version à nous, selon le pays, l'époque.
La passacaille, c'est un style de danse ou de musique ? Comment peut-on définir ça ?
Alors la passacaille, ça veut dire « pasar en la calle » en espagnol, ça veut dire « de passer dans la rue ». Et donc c'est une danse qui est sur une basse qu'on appelle obstinée, parce qu'en fait c'est quatre accords qui reviennent indéfiniment pendant toute la durée du morceau. Et donc c'est une danse qui apparaît... en Espagne et en Italie, enfin qui se développe tout de suite très vite partout en Europe.
Et nous allons passer donc au morceau du milieu, donc une composition de Bieber, la cinquième Parsia, hein, comme vous le présentez. Bieber, donc un compositeur de quel pays ?
C'est un compositeur donc du XVIIe siècle, qui était en Europe du Nord, en Allemagne. C'est un compositeur qui a vraiment énormément développé la virtuosité du violon, comme Laurie en parlait tout à l'heure avec la scordatour, tout ça.
Et il a composé un recueil qui s'appelle Les Sonates du Rosaire, qui est l'une de ses pièces les plus connues. D'ailleurs, si vous voulez écouter, ça passe à caille, elle est absolument somptueuse.
Thank you. Entendu dernièrement qu'il existait dans l'histoire de la musique des milliers de compositeurs de musique baroque que très peu sont ramenés au goût du jour. Est-ce que vous-même vous en découvrez et est-ce que vous seriez tenté de les refaire découvrir?
Vous les connaissez tous. Vous les avez tous joués.
Oui, il y en a. Enfin, c'est même vertigineux le nombre de pièces méconnues et de petites perles cachées et qui sont même pas mis à jour, enfin, qui sont perdues un peu dans la nature. Et c'est vrai qu'on aimerait beaucoup, en mettre en valeur aussi. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là. On a déchiffré pas mal de pièces ces derniers temps qui étaient justement des pièces un peu sorties de sous les fagots.
Combini, par exemple.
Ah oui, Combini. On a un trio qui est un peu aux petits oignons et qui est, malheureusement, il faisait partie de notre ancien programme, donc là on l'a pas choisi pour les concerts à venir à Die. Mais c'est un trio pour violon. Alto et violoncelle, et qui est très très particulier. Et autant dans le déchiffrage de la partition qui est complètement biscornue, et autant dans les harmonies et les mélodies écrites. Enfin, c'est très, très étrange.
Je pense que ça, c'est en lien avec le statut du compositeur au XVIIe. Peut-être qu'il y avait plus de compositeurs à l'époque, puisque c'était tous des maîtres de chapelle dans chaque village qui écrivaient leur musique pour les musiciens. Du coin, en quelque sorte. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Mmh.
Et c'est pas le statut aujourd'hui actuel du compositeur, des fois érigé en savant, et qui n'est pas présent partout sur le territoire, qui n'est pas dans chaque village, voilà.
Et d'où le travail. Enfin, nous, presque la moitié de notre travail, c'est forcément d'être enfermé dans un studio à bosser toutes les trois, mais c'est d'aller fouiner sur Internet, dans les bibliothèques, un maximum de partitions, de chercher. Et chose qu'on ne faisait pas autant quand on était dans notre cursus d'instruments modernes. Beaucoup de recherches et aussi dans les traités pour essayer d'aller chercher un maximum le style et les idées, mettre le plus de sens possible dans cette musique qui finalement est une musique quasi morte parce qu'on a... entre la musique de la Renaissance et la musique baroque, on n'a pas de personnes qui ont pu faire le lien jusqu'à nous aujourd'hui. Alors que la musique du 19e et 20e, 18e aussi... Il y a beaucoup de professeurs qui ont pu transmettre. Mais nous, quand on écoute une partition d'un compositeur inconnu, personne ne peut nous dire comment c'était joué à l'époque. On n'a pas la tradition.
Et je reviens sur la question de la partition. Vous ne jouez pas sur des partitions écrites avec une notation moderne?
Sur ordinateur, sur des manuscrits.
Voilà. Alors, sur quoi vous jouez?
Sur des manuscrits. De leur plume. C'est vrai que c'est très joli, et parfois c'est illisible, mais ça en dit beaucoup aussi sur la musique.
C'est impressionnant, oui, tous ces signes, j'ai vu ça en entrant tout à l'heure. Les partitions, l'écriture de la musique, a-t-elle évolué entre l'époque du Moyen-Âge, ça c'est sûr, mais à partir du baroque, est-ce qu'il y a eu une universalité de l'écriture de la musique qui s'est établie?
Pour les partitions de l'époque baroque... en fait, il y a très peu de choses écrites, finalement. Et donc c'est pour ça qu'une grande partie de notre travail aussi, c'est de rajouter ce qu'on appelle des ornements, tout ça. Parce qu'en fait, à l'époque, les musiciens avaient la trame de la partition, mais ça coûtait aussi très cher de tout écrire. Donc on écrivait finalement peu. Et donc sur ces notes, ils improvisaient en quelque sorte des notes qui faisaient lien entre chaque note, ce qu'on appelle l'ornementation.
Il faut s'imaginer qu'ils n'avaient pas toute la musique qu'on a nous aujourd'hui, quand on pense qu'on a presque 500 ans de musique dans nos oreilles, alors qu'eux, ils étaient nés dans une région, et ils jouaient la musique de leurs professeurs, et à partir du baroque, ils ont vraiment beaucoup voyagé, donc ils ont découvert beaucoup de musique européenne, mais ils avaient vraiment un style très particulier, ils n'étaient pas aussi diversifiés que nous aujourd'hui, donc le style, ils le connaissaient, ils l'avaient appris de leur maître, et ils n'avaient pas besoin du coup de mettre plein de codes sur la partition, ils l'avaient déjà en eux, chose que nous, on n'a pas, parce que voilà, très très riche tout ça.
Et avec l'avènement de l'imprimerie, ça a permis aussi la production de partitions à grande échelle?
Oui, bah, évidemment, et puis surtout avec l'apparition des maisons d'édition aussi à Paris, par exemple. Il y a eu une uniformisation de l'imprimerie des partitions, et avec des erreurs parfois, selon les éditeurs, mais c'est pour ça que les manuscrits parfois sont plus fiables que certaines éditions anciennes.
Et puis, pour terminer l'émission, vous proposez donc un trio numéro 2, opus 34 de Boccherini, un compositeur italien, on imagine.
Oui, assez connu, entre autres, donc compositeur italien du XVIIIe siècle. Assez connu pour ses pièces, ses trios, il en a écrit un paquet, et qui sont assez virtuoses aussi pour le violoncelle, qui le violoncelle est un instrument de basse jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et c'est à partir du XVIIIe siècle, en fait, où les compositeurs ont vraiment trouvé cette perle qui était le violoncelle et commencé à écrire des pièces solistes.
Oda violoncelliste.
Et voilà, donc on a choisi ce trio qui inclut le violoncelle comme une troisième voix à part entière et non plus une basse.
Avant de vous affirmer sur vos instruments chacune, vous êtes passé par l'étape aussi de pratiquer d'autres instruments, non? Vous êtes venu directement soit au violon ou au violoncelle, donc?
Oui.
La vie de musicienne aujourd'hui, comment se fait-elle? Comment se passe-t-elle? Facilement? Vous avez facilement des dates? Vous tournez aussi?
Alors, nous, on s'est connus en première année de licence. Une licence, c'est 3 ans. Et là, on est dans notre 3e année. Donc, on est encore étudiantes, toutes les trois. Grâce à des amis comme Nicolas, on commence à parcourir un peu la France. Grâce au pôle de notre établissement, on a pu aller aussi à l'étranger, donc en Autriche, au Portugal. Et donc là, il y a aussi, on poursuit un très gros travail de communication et de prospection, du coup, pour pouvoir un maximum chercher justement ces dates et jouer un peu partout, et surtout dans des lieux qui nous tiennent à cœur, comme des établissements où la musique n'est pas encore très présente. Donc des IME, par exemple, ou aller voir des enfants qui n'ont pas accès à cette musique, aller voir des personnes âgées. Là, on va jouer au mois de juin pour une association contre le cancer. On essaye de développer tout ça.
Trouver un sens à ce qu'on fait.
À notre pratique.
Et puis, la Sibelius Academy Foundation, qu'est-ce que c'est par rapport à vous? Donc, c'est plutôt Nicolas que je devrais poser la question.
Oui, alors la Sibelius Academy Foundation que vous voyez sur l'affiche est un sponsor de l'association Alter Musica qui organise ses concerts et qui a aussi une mission de développement et de promotion des jeunes talents, des jeunes groupes de musique de chambre. Donc grâce à cette association, il y a l'Octuor Cosmopolite qui a été formé, il y a le Quintet Scandale que vous avez reçu à Erdiwa l'hiver dernier. Et le trio des violons d'Aliénor fait aussi partie de ces formations, jeunes formations qu'on propose et qu'on propulse et qu'on promeut et qu'on présente sur scène. Et la Sibelius Academy Foundation est une fondation, un sponsor qui permet de financer ces activités au même titre que la région, le département, la ville, la CAF, Nateva et le Crédit Agricole.
Grâce à ces sponsors, on a pu passer, et surtout grâce à Nicolas et tout son travail, on a pu passer une semaine à Die, donc avec un décor absolument incroyable, pour travailler justement toutes ces pièces, parce qu'on n'a pas forcément le temps, nous, de travailler ensemble. On a aussi, on parlait tout à l'heure d'un travail d'enseignant, on a aussi toutes commencé à enseigner. Et donc, trouver du temps pour travailler ensemble, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, ils nous ont offert une semaine dans un lieu, un cadre magnifique, à pouvoir être toute la journée ensemble, à monter le programme, travailler et à la clé des concerts où on rencontre le pays d'Iwa.
Voilà, c'est un des objectifs d'Alter Musica, c'est aussi de proposer un cadre de travail favorable à des groupes comme les trois que j'ai cités tout à l'heure. Et on profite des vacances scolaires pour utiliser, par exemple, entre autres, l'école de musique de Die, où le trio peut répéter durant toute la semaine afin de présenter un programme à la fin de la semaine, une sortie de résidence, donc vendredi et samedi. C'est une mission que je leur ai donnée de concocter un programme du nouvel an pour le public d'Iwa pour fêter l'entrée en 2020.
Un programme qui a pétillé.
Un programme qui pétille, un programme Tour d'Europe. Je crois que c'est de la musique allemande, italienne, française. Autre chose.
Espagnol. Et anglaise aussi.
Espagnole et anglaise, voilà.
Nous aurons peut-être la chance de vous réentendre au-delà de ces deux dates.
Bah, on espère revenir l'année prochaine. Avec grand plaisir.
Vous serez encore étudiante l'année prochaine ou en principe ou pas?
Pas toutes.
D'accord.
Pas toutes. Il y a des poursuites d'études peut-être à envisager. Et sinon, quelle est la prochaine date en dehors du DIWA?
On joue mi-janvier. On a plusieurs dates pour un festival de musique de chambre.
À Poitiers.
Voilà. À Poitiers. Nicolas Misen, quelles sont les prochaines dates organisées par Alter Musica?
Les prochaines dates sont alors en tout premier lieu ce week-end. Pressez-vous urgemment au concert du Nouvel An. Vendredi soir à la salle arc-en-ciel à 20h30 à Die. C'est la salle paroissiale. Certains se demandent où se trouve cette salle. C'est la salle paroissiale à côté du temple. Donc juste entre le temple et la cathédrale à Die. Vendredi 20h30. Et ensuite samedi, le trio rejouera le même programme au temple de Poyol à 20h30. Voilà. Et ces concerts grandioses annonceront également une période de trêve pour Alter Musica. On a pris la décision de faire une pause en 2020. Donc c'est en fait, avec un petit peu de retard, la fin de la saison culturelle 2019 qui se termine ce week-end. Et en 2020, il n'y aura pas d'événement de manière exceptionnelle. Le temps de laisser du temps à d'autres personnes de s'occuper d'autres choses et de revenir avec plus d'énergie et de nouveautés pour, j'espère, 2021. Et c'est aussi en lien avec mes problématiques d'études et de poursuite de cursus à l'étranger qui m'occupent actuellement. Et donc Alter Musica est censé revenir en 2021 avec des nouvelles propositions culturelles pour peut-être un territoire plus vaste, peut-être davantage de partenariats locaux avec des institutions, comme ça peut être l'hôpital, comme l'école primaire, comme l'école de musique. Voilà.
Camélia, Laurie et Oda, c'est la musique qui vous donne cette envie d'aller voyager à travers les pays du monde entier?
La musique et les échanges, oui. Les échanges avec Nicolas, avec tous les gens qu'on peut rencontrer, tous les publics aussi. Et c'est vrai que c'est des cadres qui sont fantastiques. À Die, c'est juste magnifique et c'est assez exceptionnel pour nous et c'est vraiment ressourçant en fait.
Alors c'est pas uniquement à destination des interprètes, c'est aussi à destination du public. Les deux sont gagnants évidemment. C'est une saison itinérante, ça fait 3 ans d'activité, 2 saisons culturelles complètes qu'on a pu faire, 28 concerts sur toute la vallée de la Drôme, entre Val-Drôme et Cré, dans plus de 13 communes, je crois, et 40 jeunes musiciens invités sur 2 années. Voilà, c'est, je crois, un beau succès, on est très fiers de ça, et on espère que ça sera ce week-end également avec, pour continuer cette année où on n'a fait que des salles pleines à craquer, ce qui était un pur bonheur de voir tous ces gens se déplacer pour écouter des jeunes interprètes.
Je rappelle aux auditeurs ces concerts du Nouvel An par un trio de cordes anciennes, comme vous vous présentez, qui est composé donc de Camélia Bichard au violon, Laurie Bourgeois au violon et Oda Roupion pour le violoncelle. Et donc les dates seront du vendredi 3 janvier à la salle Arc-en-Ciel à 10 à 20h30 et ensuite le samedi 4 janvier au temple de Poyol, toujours à 20h30, la participation est en libre. Eh bien, je vous remercie tous les quatre de nous avoir donné un peu de votre temps pour cette émission et je vous souhaite une bonne année aussi.
Merci.
Et puis,
bonne année à tous aussi.
Vous aussi.
Merci beaucoup.
Et merde.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.